Nous allons faire trois lectures. Je vous rappelle peut-être l'intérêt de les noter pour les utiliser pour vos cultes personnels. Nous nous privons beaucoup de ce que Dieu nous a donné parce que nous ne le mémorisons pas. Vous connaissez la parabole des talents où il est dit que le premier terrain, il entend la parole et que les oiseaux du ciel y viennent et ils enlèvent ce qui a été semé. Luc chapitre 14, verset 25. Vous étiez d'accord avec la deuxième strophe du cantique ? Luc chapitre 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Dans la troisième épître de Jean, il y a une courte lettre qui porte pour titre, dans ma version, « La marche dans la vérité ». Nous allons lire les quatre premiers versets, s'il vous plaît. Troisième épître de Jean, du verset 1 au verset 4. « L'ancien à Gaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » Comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Et regardez ce que Dieu dit au travers de l'apôtre Jean. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Un autre texte où nous est parlé de vérité, dans l'Épître aux Éphésiens, avant de parler du combat, du bon combat, Paul dit ceci. Éphésiens, chapitre 4, verset 15 au verset 24. Éphésiens 4, verset 15. Mais en professant la vérité, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir, il ne nous est pas demandé de la confesser la vérité, de la dire. Il nous est demandé de la professer, c'est-à-dire de la vivre. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si, du moins, vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ce verset est clair. La vérité, Jésus est la vérité, devrait avoir pour résultat un comportement vécu dans la justice. Je fais ce qui est juste. Nous avons entendu un don, chercher le royaume de Dieu et sa justice. Ce n'est pas la justification. La justice, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu veut. La vérité, si la parole de Dieu ne produit pas la sainteté et la justice, comme dit Paul d'ailleurs aux Corinthiens, il dit « vous recevez la grâce de Dieu en vain ». S'il n'y a pas de progrès, vous avez vu, en professant la vérité, on ne peut que croître. Et je m'adresse à tous les chrétiens, bien sûr, à ceux qui ne font pas de progrès, qui sont en danger. Les progrès peuvent être lents, alors là on n'a pas jugé la progression de chacun. Mais il n'empêche que la parole de Dieu, si elle agit une fois comme un marteau, une fois comme un feu, une fois comme un baume, etc., une fois comme un miroir où je vois vraiment ce qui ne va pas, la parole de Dieu, elle doit nous faire croître. Si vous ne grandissez pas, écoutez bien cette prédication. Écoutez-la, croyez-moi, elle est pour vous. Dans Luc, au chapitre 6, ne le cherchez pas, au verset 40, Jésus, enseignant la foule, dira ceci, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Un disciple, il cherche à ressembler de plus en plus à son maître. Des fois, on a l'excuse facile, mais moi, quand je vois certains chrétiens, eh bien justement, Dieu ne vous demande pas de regarder à des mauvais témoignages. Dieu vous demande d'avoir pour modèle le Seigneur Jésus. Alors, tout disciple accompli. Accompli, si vous cherchez dans un dictionnaire, ça veut dire qui remplit les conditions. Qui remplit les conditions. Quelqu'un est un disciple quand, voilà, le salut est gratuit, c'est clair. Mais une fois qu'on est sauvé, on va devenir un disciple. Le brigand sur la croix, est-ce qu'il avait besoin d'une grande conversion, le brigand sur la croix, celui qui s'est repenti? Est-ce qu'il avait besoin de se convertir? Non, il avait besoin juste de se... Pourquoi? Parce qu'il savait que quelques minutes après, il partait au ciel. Vous croyez que s'il était descendu, on ne sait pas, imaginons que Dieu ait permis, il aurait pu, le Seigneur aurait permis qu'il descende. Est-ce que Dieu aurait pu le permettre? Oui. Est-ce que vous pensez qu'il n'aurait pas eu des choses à régler dans sa vie? Il avait tué des gens. C'est un criminel. Vous ne croyez pas qu'il aurait dû demander pardon? Vous ne croyez pas? Vous savez, la repentance, c'est une chose. La conversion, c'est une chose. Et cette prédication, elle m'est venue dans la semaine. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un pasteur qui m'a appelé d'une région. Et il me dit, Monsieur Gau, j'ai été un service de baptême. Et il y avait un baptême dans l'église, ou deux. Et à la fin des baptêmes, le pasteur, il a dit, voilà, s'il y a quelqu'un qui veut prendre le baptême, levez-vous. Voilà, prenez le baptême. Moi, je trouve que c'est quand même un peu léger. Parce que Jésus, avant de remonter au ciel, il a dit, il n'a pas dit « fête des chrétiens ». Il a dit « fête des disciples ». Matthieu 28, 19, je crois. « Fête des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Vous savez que c'est du temps de Paul à Antioche que les premiers disciples furent appelés chrétiens. C'est écrit ça dans le livre des Actes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples, parce qu'au départ, les croyants, c'était des disciples. Ils furent appelés chrétiens. Mais la question que l'on peut se poser aujourd'hui, elle est beaucoup plus simple. Est-ce que tous les chrétiens sont des disciples ? Parce qu'en fin de compte, ce que Dieu veut, c'est des disciples. Alors, à notre âme et conscience, on est devant Dieu, on est venu, on a prié tout à l'heure avant le culte, on a chanté, on a loué, on a rendu grâce, on a prié, Seigneur, que ce moment, par ta grâce, serve à m'approcher de toi. Est-ce que c'est important pour vous que vous vous approchiez un peu plus du Seigneur ce matin? Ou est-ce que vous vous en fichez? Réellement, vous savez, Dieu regarde au cœur. Vous me regardez prêcher, c'est bien, c'est normal. Mais laissez-moi vous dire que pendant que je prêche, le Tout-Puissant regarde au cœur. Il regarde à votre cœur, dans votre cœur. Comment vous répondez à mes questions? C'est vrai qu'elles ne sont pas peut-être toujours à propos, mais quand même. Et je fais des progrès depuis le 1er janvier, depuis 3 ans. Est-ce que j'ai fait des progrès? Puisque le texte qu'on a lu, c'est clair. Si je professe la vérité, je ferai des progrès, on l'a lu. Si je n'ai pas fait des progrès, c'est que je me suis certainement mal comporté et que j'ai été léger avec les choses de Dieu. Est-ce que je connais davantage la parole ? Non, pas la parole. Est-ce que je connais davantage mon Sauveur ? Parce que connaître la parole, ce n'est pas parce qu'on connaît la parole qu'on connaît davantage Jésus. Regardez les pharisiens et vous allez voir, ils sondaient les Écritures et ils ne supportaient pas Jésus. Il y a des gens, ils aiment la parole pour l'auto-satisfaction, pour le plaisir que cela procure. Il y a un vrai plaisir à étudier la parole de Dieu. Mais on n'étudie pas la parole de Dieu pour mieux connaître la parole de Dieu et savoir que tel thème de tel livre correspond à tel thème du Nouveau Testament, etc. Non, on étudie la parole de Dieu pour connaître Jésus. Est-ce que je connais mieux Jésus ? Est-ce que j'ai confiance en lui ? Est-ce que vous avez plus confiance en Dieu qu'il y a un an ? Ou est-ce que vous savez, vous savez même pas ? Peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous êtes tellement mal, vous ne savez même pas si vous avez fait des progrès. Cette prédication, écoutez-la. Faites des disciples. Notre rôle à nous, les serviteurs de Dieu, ce n'est pas de faire des sermons, c'est de faire des disciples. Vraiment des disciples. Suis-je un vrai disciple ? Est-ce que vous êtes, est-ce que nous sommes, est-ce que je suis un vrai disciple, un chrétien? Vous savez ce que ça veut dire, chrétien? Un petit Christ. C'était, alors quand on a appelé les disciples chrétiens, c'était, bien sûr, c'est pas étonnant, c'était pour se moquer des disciples. Tiens, les petits Christ, ils se rassemblent, ils se moquaient de Jésus. On s'est toujours moqué de l'Église, toujours. Alors j'aimerais voir avec vous les caractères du disciple. Il y en a quatre qui sont bien expliqués dans la Bible, on va voir un ce matin. Et à la fin de cette prédication, nous devrions pouvoir dire, Seigneur, voilà, j'ai besoin de ça. Je dois me corriger. Je dois me repentir. Je dois me mettre à genoux. Peut-être pas ici, c'est peut-être pas la peine. Vous savez, il y a des choses, c'est pas la peine de les faire devant les gens. Je pense qu'il faut les faire seul dans sa maison. En espérant que le diable n'aura pas déjà volé la semence avant que vous arriviez à la maison. Alors on va lire un texte dans Jean, chapitre 8. C'est le premier texte qui va nous servir pendant ce mois de juillet, à moins que Jésus revienne avant, je ne pourrai pas terminer, parce que je ne serai pas là. Jean 8, 31, on va voir le verset 30, on va lire jusqu'au verset 47. Ce sont des textes qui m'ont permis justement de préparer ces exhortations. Qu'est-ce que Jésus dit ? Car tout ce qui a trait au caractère du disciple devrait nous intéresser. C'est pour ça que je vous encourage à noter, et peut-être à la 30e fois. Moi, vous savez, hier, j'étais convaincu par une parole de Dieu. Je l'ai lu 500 fois. J'en avais honte. Je l'ai lu 500 fois et Dieu m'a parlé comme personne ne peut savoir. Comme quoi, il faut parfois méditer plusieurs fois avant que le clou s'enfonce, hein. Jean chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Ça commence bien, ça ne va pas finir bien. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, regardez bien, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, mais nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? C'était des religieux qui répondaient à Jésus. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Donc voyez, si vous vivez dans le mensonge, vous savez qui est votre père. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas? Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Je le relis, s'il vous plaît. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous regardez la parole de Dieu dans son ensemble, par rapport à la vérité, c'est un sujet quasi inépuisable, vous voyez qu'il nous est demandé, comme on l'a lu, de professer la vérité, de marcher dans la vérité, d'aimer la vérité. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Ceux qui aiment la vérité, ils aimeront la parole de Dieu. Et Paul à la fin dans une de ses épîtres, parle des chrétiens de la fin des temps, il nous met en garde, il nous explique qu'il y a le repos, qu'il y a une marche et qu'il y a un combat. Vous connaissez l'épître aux Éphésiens, il parle d'un repos, il y a un vrai repos. Un chrétien qui est passé par la croix et qui obéit, il entre dans le repos. Ce repos lui permet de marcher et cette marche, bien sûr, lui donne la capacité de combattre le bon combat. Et il demande pour cela de nous revêtir de toutes les armes. Voilà pourquoi tant de chrétiens rétrogrades, ils s'imaginent que ce n'est pas important, que c'est de l'exagération, et tatati et tatata. Mais si le Seigneur nous dit qu'il y a un combat, il dit « vous avez à lutter ». C'est écrit ou c'est pas écrit? Vous avez à lutter, non pas contre la chair et le sang, il ne faut pas lutter contre les gens et lui et son caractère, tatata. Il faut lutter contre les principautés, les dominations. Quand on prie, on combat contre les dominations. Ne soyez pas légalés, ou stupides, voilà le mot qu'il faut dire. Ne soyez pas stupides, je veux lier les puissants des ténèbres. Si vous n'obéissez pas, ça ne sert à rien. Si vous ne revêtez pas les âmes, ça ne sert à rien. Mais quand vous priez, vous luttez contre les dominations. Alors, Paul dit, de nous revêtir de toutes les armes. Revêtez à vos reins la vérité pour ceinture. Un chrétien, il aime la vérité, il a besoin de la parole. Il sait que Jésus est la vérité, il sait que nous sommes sanctifiés par la parole est la vérité, il a besoin de vérité. Vous aimez la vérité? Pour les autres ou pour vous? Pour les deux. Nous avons à lutter, il y a un combat. Il aime la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie, c'est Dieu qui parle. Quand je vois un enfant, de mes enfants, qui marche dans la vérité, pas qui confesse la vérité, c'est facile de prêcher la vérité. Même moi, le premier ce matin, qu'est-ce que ça m'est facile, puisque je la connais la Bible. Mais il y a une différence entre prêcher la vérité et vivre dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Un exemple, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, est-ce que je peux regarder une émission sur la magie? Ne répondez pas à haute voix. Est-ce que je peux regarder une émission sur la prestidigitation? C'est rien la prestidigitation, monsieur Gosset. C'est des tours de passe-passe. Et je crois qu'il y a des petits trucs qu'on peut faire par, les passe-passe. Il y a des gens, ils prennent les cartes, clac, clac. Moi, j'ai connu, une fois, je suis rentré dans un magasin, il y avait un gars, il me dit, je vais deviner la carte. Et le gars, il m'a expliqué qu'il avait 32 signes avec sa femme pour parce que c'était l'as de pique, pour se gratter le nez. Vous voyez, et sa femme savait que c'était... c'est pas compliqué de se rappeler de 32 signes. Il m'a expliqué qu'il y a des choses, c'est humain. Mais quand je vois qu'il y a des chrétiens qui regardent des émissions sur la magie au nom de la curiosité, laissez-moi vous dire qu'il est écrit dans la Bible que celui qui regarde ces choses, il se souille avec. C'est écrit ou c'est pas écrit? Oui, c'est écrit. C'est écrit, je l'ai marqué quelque part, ça. Dans le Lévitique 19:31, ne vous tournez pas vers ces choses, de peur que vous vous souilliez avec eux. Alors, on va lire, mais moi je suis attristé. Quand je vois des chrétiens qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans de conversion, qui n'ont pas compris ces choses. Pourquoi ils n'ont pas compris? Eh bien, parce qu'ils ne les ont pas lues. Et pourquoi ils ne les ont pas lues? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas soif de la vérité. Parce que quand vous avez soif de la vérité, vous voulez savoir ce que Dieu dit sur tel ou tel domaine. Oui ou non? Mais c'est clair. Vous connaissez Deutéronome. Moi, quand je vois des chrétiens qui ont 10 ans de conversion, « Ah, mais j'avais pas fait gaffe, j'avais jamais lu ça. Ben, » écoutez-moi, c'est grave, mes frères et sœurs. Je sais bien qu'on ne peut pas tout comprendre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un verset hier qui m'a bouleversé. Je l'ai lu 500 fois. Et 500 fois, je n'exagère pas. Donc, je sais très bien que la révélation, elle est progressive. Ça, on le sait. Mais quand même, il y a des choses qu'on doit découvrir dès le début. Deutéronome 18, 10. Ce sont des textes que vous pouvez apprendre par cœur. Pourquoi? Eh bien, pour les donner à des gens que vous rencontrerez, qui sont à fond là-dedans et qui sont dans l'incapacité de se tourner vers Dieu. Parce que la Bible dit que ceux qui prient les idoles, ils ne sauveront pas leur âme. Parce que c'est une abomination. C'est écrit ou c'est pas écrit? Deutéronome 18, 10. Qu'on ne trouve chez toi, dans ta maison, personne. Donc, voyez, on doit veiller que, faites attention que vos enfants, dans vos chambres, parce que maintenant tout le monde a Internet, etc., dans sa chambre, faites attention que vos enfants n'aillent pas voir des choses comme ça. Qu'on ne trouve chez toi personne, qu'on fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue. L'astrologie, oh, mais c'est des blagues. L'astrologie, c'est diabolique. Je ferai une étude là-dessus, je la ferai, je ne vais pas la commencer maintenant, ça ferait trop long. D'augure, de magiciens, les magiciens, vous croyez mes frères et sœurs que quand on déplace des objets, ils se déplacent tout seuls? Non mais soyons sérieux, les gens ne veulent pas croire en Dieu. Et quand les gens déplacent des tables, vous croyez que ça bouge tout seul un objet? Il faut bien que quelqu'un le déplace, oui ou non? Vous croyez que c'est Dieu qui fait ça puisqu'il est contre? Et les gens se souillent, après ils s'interrogent, c'est pourquoi je suis tout le temps malheureux? Parce que moi je crois que Dieu donne la joie. Nous l'avons entendu ce matin dans un don spirituel. Il donne la joie, il est la source de la joie. Avant de mourir, avant de donner sa vie au calvaire, il a dit « Je vous donne ma joie ». Il y a une joie que Dieu seul peut donner. La vérité, c'est ça, mes frères et sœurs. Et ne commencez pas à dire « Ouais, mais ça a été écrit du temps de Moïse ». Mes frères et sœurs, qu'on ne trouve dans notre maison aucune de ces choses. Je ferai l'étude là-dessus, je prendrai une matinée, je le ferai par rapport à tout l'occultisme. Que les chrétiens tolèrent. Ne me dites pas qu'il y a l'amour de la vérité. Quelqu'un qui aime la vérité, il va savoir ce que Dieu dit. Il va savoir ce que Dieu demande. Oui ou non, mes frères et sœurs? Est-ce que ce que je dis, c'est sectaire? L'horoscope, mais l'horoscope, il y a des chrétiens qui lisent l'horoscope. Mes frères et sœurs, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y a pas le réveil dans nos églises. Parce que, alors, je vais dire quelque chose, il faut le dire. Il y a des gens qui diabolisent tout. Ils voient le diable partout. Ça, c'est vraiment pas intelligent. Ils voient le diable partout. Ils ne savent pas, il faut demander le discernement. La Bible nous demande est-ce que c'est écrit de demander le discernement des esprits? Ben oui, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a des gens qui voient le diable partout. Bon, c'est vraiment un témoignage déplorable. Et il y a les gens qui ne voient le diable nulle part. Et croyez-moi, il y en a un qui est content quand on le voit nulle part. Et je voudrais vous expliquer ces choses. Mais mes frères et sœurs, sans vouloir exiger que nous fassions d'énormes progrès, ces choses-là devraient être lues les premiers jours de notre conversion. Oui ou non? Combien de jours vous a-t-il fallu pour arriver au Deutéronome lorsque vous avez donné votre cœur au Seigneur? Un an? Combien de temps vous avez mis? Est-ce que ça tient debout? 5 ou 6 mois, j'ai lu le Nouveau Testament, puis voilà, j'attaque le Nouveau Testament. On le sait, le Saint-Esprit nous parle. Si nos yeux sont ouverts, oui ou non, mes frères et sœurs? Vous avez lu les paroles de Jésus? Ce n'est pas mes paroles, si c'était les miennes, vous pourriez dire, ce n'est pas grave. Si vous ne marchez pas dans la vérité, c'est que vous n'aimez pas ma parole. Mes frères et sœurs, si vous vivez dans ces choses, si vous tolérez ces choses au nom de l'évolution, au nom de je ne sais pas moi. Il y a une fille, je me rappelle un jour, qui me dit « Monsieur Gault, moi je ne veux pas être légaliste. » Elle venait au culte une fois par mois. Alors je dis « Vous savez, soyez fidèle. » Elle me dit « Monsieur Gault, je ne veux pas tomber dans le légalisme. » Je dis « Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas parti pour ça. » Et bien sûr, elle a rétrogradé, elle est partie avec un inconverti. Elle s'est mise dans une situation de péché. Les gens ne réalisent pas que si Dieu nous a donné sa parole, il faut veiller attentivement sur notre âme tous les jours de notre vie. L'impudicité. Impudicité. C'est quoi ? La Bible est tellement furieuse contre l'impudicité qu'elle, c'est le seul péché pour lequel la Bible dit « Fuyez l'impudicité ». Oui ou non ? Jésus a dit « Si vous m'aimez, vous connaîtrez la vérité ». Il y a un respect profond pour la parole, pour la sainte parole. Vous aimez la parole ? Vous aimez vraiment lire ce qu'il y a dans le Saint-Livre ? N'oubliez pas, ça vient du cœur de Dieu, c'est écrit en français, c'est traduit dans plusieurs versions. Bon, ça c'est secondaire. Mais mes frères et sœurs, le Saint-Livre, il est sorti de la bouche de notre Dieu. Et tout ce qui est écrit est utile. Des grandes foules faisaient route avec Jésus, tout le monde suivait Jésus, gloire à Dieu, alléluia. Et Jésus, alors c'était vraiment l'image du succès, vraiment l'image de grandes foules, c'est pas écrit une foule, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Jésus s'arrête et il se retourne et il leur dit, personne ne peut être mon disciple si, vous l'avez lu avec moi. Le problème c'est pas de suivre Jésus, enfin de suivre, de galoper derrière. L'important c'est de dire, est-ce que je suis un disciple ? Alors je sais qu'il y a la croissance, moi je le dis honnêtement. Je pense que si j'avais été beaucoup plus sérieux avec Dieu, j'aurais fait davantage de progrès. C'est évident, chacun de nous on peut le dire. Mais bien sûr, on peut le dire. Bon, ne nous traumatisons pas non plus, avançons. Mais quand Paul prophétise sur les chrétiens de la fin des temps, parce que bon, quand même moi c'est des prophéties qui sont beaucoup plus importantes pour nous maintenant que pour les chrétiens de l'époque. Quand il dit, mais dans les derniers temps, quand l'apostasie sera là, parce que c'est le signe qui va ouvrir l'enlèvement de l'Église, la préparer l'enlèvement de l'Église. On est en pleine apostasie, ne dites pas, on est dans l'apostasie. Et il dit, on va le lire. Moi, c'est un texte, je pense que c'est le texte qui m'a fait le plus réfléchir au début de ma conversion, parce que je n'avais pas compris. Je ne croyais pas que c'était possible. Et puis, je peux vous assurer que je le sais que c'est possible. Je le sais. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, il parle de l'apostasie. C'est quelque chose qui doit arriver. On peut peut-être, on peut freiner par une vie de piété, on peut retarder le jugement, ça c'est clair, mais le jugement viendra, l'apostasie elle est là, la colère de Dieu elle vient, on ne peut que le retarder. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, mais c'est archi sévère pour les chrétiens et de surcroît pour les pasteurs. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Bah, croyez-moi des séductions, il y en a. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie est une période de grande séduction. Mais regardez, verset 9. L'apparition de cet impie se fera avec la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est pour ça qu'avant de regarder les miracles, les signes, les émotions, il faut regarder la parole. Il y a des gens, dès qu'il y a un miracle, ça y est, ça vient de Dieu. Non, il faut regarder si dans cette affaire-là, les gens sont conformes à la parole de Dieu. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Alors regardez bien verset 10. Regardez bien mes frères et sœurs. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il n'est pas dit qu'ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas reçu. Croyez-moi, vous pouvez demander Seigneur, donne-moi l'amour de la vérité. Donne-moi d'aimer la vérité. Comme David dans sa prière de repentance, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Mes frères et sœurs, si vous croyez que Jésus est la vérité, que la parole est la vérité, si vous lui dites, Seigneur, je veux recevoir la vérité, il vous la donnera. Si vous demandez du pain à Jésus, il ne vous donnera pas une pierre. C'est impossible. Aussi, la conséquence, c'est terrible. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Alors, ça ne serait pas trop grave si c'était une question d'opinion. C'est-à-dire, moi je pense ça, vous pensez ça. On pourrait dire, si c'est dans les opinions, bon, c'est pas grave. Et je n'articulerai pas autant. Mais regardez les conséquences. afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, fassent deux groupes. C'est ça qui est écrit ? Qu'est-ce qui est écrit ? Ils soient condamnés. Vous voyez, on pourrait dire, bon, ça fait deux églises différentes, qui ont deux visions différentes, à partir du moment où on reste sur la base. Non ! Ça va loin, le rejet de la vérité. Vous avez vu jusqu'où ça va ? Dieu nous éprouve, mes frères. Dans tout le domaine, je l'ai dit, mais je suis persuadé que beaucoup de gens ne le croient pas. Hier soir, en préparant ma prédication, j'ai pensé à un texte qui s'est imposé, je pense, à moins que ce soit que pour moi, mais je ne crois pas. Je pense que c'est pour beaucoup de frères et sœurs. C'est dans le livre du Deutéronome, chapitre 13. Il y a un texte qui m'a beaucoup étonné, mais qui en dit long. Regardez bien, frères et sœurs. C'est peut-être choquant pour plusieurs. Si vous lisez ça pour la première fois, vous ne le comprendrez peut-être pas. Mais Dieu vous éclairera, ne vous inquiétez pas. Deutéronome, chapitre 13, verset 1 à verset 3. Mais regardez bien. Notez-le et relisez-le et méditez-le. Deutéronome chapitre 13. Regardez bien. C'est dans le royaume de Dieu, c'est dans l'Église, c'est dans le royaume, c'est dans le peuple d'Israël. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait l'accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Verset 4, vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez, etc., etc. À la fin, vous vous attacherez à lui. Vous avez vu jusqu'où ça peut aller ? Dieu peut permettre que des faux prophètes fassent certaines choses, mais c'est complètement en dehors de la vérité de la parole, et Dieu nous met à l'épreuve. Dieu voit si on préfère l'expérience ou la parole. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a plein d'endroits, alors il y a une cacophonie pas possible, mais les chrétiens, les véritables disciples, ils veulent la vérité. Béni soit Dieu pour les expériences, etc. Car le mensonge, c'est ce qui est écrit, c'est ce que Paul dit. Vous savez, mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que vous ne le comprendrez pas tous. Mes frères et sœurs, soyons sérieux. Quand on croit, je pèse mes mots parce que je veux pas faire, je fais attention. Quand on croit, aujourd'hui, dans nos églises, que le théâtre, les arts, regardez les flyers des nouveaux séminaires, quand on croit que les arts, les mimes, j'arrête, peuvent remplacer la vie de l'esprit, moi, je peux vous dire que quand on croit ça, on croit un mensonge. Je sais que plusieurs ne l'accepteront pas, c'est pas grave. Je sais que c'est vrai. Rien ne peut remplacer la puissance du Saint-Esprit. Rien. Rien ne peut remplacer la puissance de la parole de Dieu. Et on pourrait prendre plein de textes. Parce que, dit Jésus, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Je nous pose là cette question. Est-ce que vous avez reçu l'amour de la vérité ? Est-ce que vous, c'est du non négociable ? Je veux marcher dans la vérité. La vérité, elle produira la sainteté. Elle produira la justice. Alors c'est vrai que Jésus va loin. Parce qu'il dit l'esprit de vérité. Que le monde ne peut pas recevoir. On peut demander le baptême du Saint-Esprit. Si j'aime le monde, il va y avoir une incompatibilité possible, pas possible. Est-ce que vous me suivez ? Jésus dit l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Si nous voulons que l'esprit de vérité soit notre partage, il ne faut pas aimer le monde. Et vous avez compris ce que je voulais, vous savez. Il y a des choses dans le monde qui sont mauvaises, vraiment mauvaises. Et nos âmes sont purifiées, dit l'apôtre Pierre. Nos âmes sont purifiées en obéissant à la vérité. Alléluia. Un chrétien, il aime la vérité. Jésus dit, il demeure dans la vérité. Celui qui m'aime, il demeure dans la vérité. Il a besoin de connaître la vérité. J'ai parlé tout à l'heure de certains aspects de l'occultisme. Mais moi, je vous assure, mais si vous saviez tout ce que j'entends, vous ne le croiriez pas si je vous le disais de la chair. Vous ne le croiriez pas. Pourquoi ? Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Et ceux qui n'aiment pas la vérité, ils ne seront pas prêts. Ils ne tiendront pas. Vous entendez, mes frères et sœurs ? C'est écrit ou c'est pas écrit ? Ou c'est moi qui l'invente pour vous faire peur ? Est-ce que c'est écrit ? Veillez et priez tous les jours afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la surface de toute la terre et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et c'est signé Jésus-Christ. C'est pas moi qui le dis. Et moi, j'ai mal au cœur. Je le dépose. J'ai un fardeau. Je le dépose. J'ai du souci. Je le dépose. Puisque la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Et je sais que c'est ce que Dieu nous demande. Pour vivre dans la paix et dans le bon combat, il faut se décharger absolument de tout. Mais il n'empêche qu'on se fait du souci. Est-ce que Paul se faisait du souci pour les églises ? Est-ce qu'il l'a écrit ? Oui, il l'a écrit. Parce qu'à l'époque, s'y revenait le pauvre. Et mes frères et sœurs, il y aura bien sûr qu'il y aura des vainqueurs, puisque dans toutes les églises de l'Apocalypse, il est dit à celui qui vaincra. Mais soyons droits devant Dieu. Ne soyons pas comme tous ces chrétiens qui sont en train de chercher des prétextes pour savoir si oui, mais c'est pas l'Ancien Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut se tatouer parce que c'est pas écrit dans le Nouveau Testament. Mais mes frères et sœurs, ceux qui garderont pas la parole, ils seront pas prêts. Et tout ça, ça sera en partie de notre faute. Parce qu'on n'aura pas eu le courage de dire aux gens qu'ils peuvent recevoir l'amour de la vérité. Et quand je vois tous ces chrétiens en train de chercher cette jeune fille, Monsieur Gou, un exemple, mais je pourrais vous en donner des centaines. Monsieur Gou, mais non, moi je ne me marie pas, je vis dans le concubinage, parce que dans ma dénomination, eh bien, c'est comme ça. Mes parents ont fait comme ça. Mes grands-parents ont fait comme ça. On est passé juste par l'église. Mes frères, je l'ai amené l'autre jour au stagiaire. J'ai imprimé l'article de loi qui stipule qu'un imam, un prêtre, un pasteur, un rabbin, un curé n'ont pas le droit de célébrer un mariage sans qu'il n'ait été officialisé à la mairie. On n'a pas le droit. Il y a une amende jusqu'à 6 500 €. Et passible de prison. C'est l'article de loi, je vous le donnerai si vous le voulez. Mais de toute façon, vous pouvez faire pareil avec Internet. Parce que papa et maman ont fait ça ? Parce que papy et mamie ont fait comme ça ? Mais qu'est-ce que dit la Bible ? Si vous avez des relations sexuelles sans être passé par la mairie, vous êtes en désobéissance. Vous pouvez le justifier, dire « moi je vais dans telle église parce qu'on le tolère ». Eh bien allez-y, mais allez-y. Mais moi je vous dis que vous n'êtes pas prêts si Jésus revient vous chercher. Pourquoi ? Mais parce que Jésus l'a dit. Et que ceux qui vivent dans l'injustice n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Et c'est pas du légalisme, parce que des fois on me dit « oui, monsieur Gou, vous êtes légaliste ». Je ne suis pas légaliste, je ne le suis pas. C'est la parole de Dieu. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils en sont exactement à ce qui s'est passé au début de l'histoire. Dieu a-t-il réellement dit ? Et ils sont là, influencés par la parole de Satan. À qui elle a obéi, Ève ? À qui elle a obéi ? À Dieu ou à Satan ? Elle a préféré, que vous pouvez le dire comme vous voulez. Moi, je ne la juge pas, j'aurais certainement qu'on aurait fait pareil. Mais je veux dire, elle a préféré la parole de Satan à la parole de Dieu, le résultat, vous le savez. On aurait fait pareil. Qu'est-ce que Dieu dit ? Celui qui m'aime, un véritable disciple, il marche dans la vérité. Vous connaîtrez les véritables disciples parce qu'ils aiment la vérité. Un texte. 5e commandement. Quelqu'un peut me le citer ? Tu honoreras ton père et ta mère afin que tu sois heureux sur la terre. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Ça a même été écrit, parce que toute la parole a été inspirée, c'est des hommes qui ont écrit de la part de Dieu. Mais les 10 commandements, ça a été écrit du doigt de Dieu lui-même. Tu honoreras ton père ou ta mère. Oh, mais ma mère, elle est folle, ma mère.
La vieille folle. Qu'est-ce que vous voulez que j'honore ma mère? Mais elle est folle et mon père est un vieux gâteux. Hein, on entend ça, des chrétiens. Je ne sais pas si vous avez toujours vos parents. Les jeunes, il y a des jeunes, des enfants, des ados, il y en a. Si vous priez et que vous traitez votre maman de vieille folle, ben arrêtez de prier. Demandez-lui pardon. Un disciple, il veut savoir la vérité. Et c'est pour ça qu'il va lire la Bible. Tu honoreras ton père et ta mère, afin que tu sois heureux sur la terre. Et si votre père, il n'est pas bien, ça peut arriver. S'il est inconverti, eh bien je sais, peut-être il vous rabroue. Ça fait rien. Tu honoreras ton père et ta mère. Seigneur, donne-moi d'aimer mon père. Moi, je connais une femme dans l'église. Vraiment, c'est une femme, je ne sais pas comment elle a fait. Sa mère a été d'une méchanceté, d'une dureté. Moi, je n'aurais pas supporté. Et elle a décidé de pardonner, de la bénir, parce que c'était sa mère. Voilà la parole de Dieu. Voilà un disciple. Tout disciple accompli. Il remplit les conditions. Je veux être un disciple. Jésus va revenir, mes frères et sœurs. Moi, je suis catastrophé quand je sais la quantité de gens qui vont rester sur le carreau. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas dit ça. Vous allez me dire, ouais, mais on le sait, monsieur, on le sait, t'inquiète pas. Ah oui? Alors pourquoi ça vient que tu n'honores pas tes parents? Demandez au Saint-Esprit, est-ce que vous pouvez demander, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je me rappelle quand je me suis converti, mes parents, ma mère, je l'ai fait pleurer, j'étais méchant avec elle. Le lendemain de ma conversion, je lui ai dit, écoute, maman, je ne te ferai plus jamais pleurer. Si, peut-être de joie, mais je ne te ferai plus jamais pleurer. Mais regardez, elle me dit, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et par la grâce de Dieu, je l'ai fait. Mais mon père, qui avait à l'époque, il avait 55 ans, moi, je trouvais qu'il était très vieux. Quand je le voyais dans le motoculteur, passer le motoculteur, je dis, papa, je vais le faire. C'était ma façon de l'honorer. Oui ou non? Un chrétien, il honore son père. Mes frères et sœurs, un disciple, il obéit à la parole. Est-ce que vous entendez, mes frères et sœurs? Honorer, alors, comment je dois me comporter vis-à-vis de mon père, de ma mère? Comment je dois me comporter vis-à-vis de mes enfants? Parce que là aussi. Comment je me comporte avec mes gosses? Comment je me comporte avec mes enfants? Comment je me comporte avec mon patron? Mon conseil d'administration. Eh ouais, c'est mon patron. Demandez-leur si une fois je leur ai manqué de respect. Demandez-leur. Parce que on a tous une autorité au-dessus de nous. Comment je dois me comporter avec mes employés? Peut-être que vous avez des employés, parce que vous êtes patron, vous vous autoriseriez à les mépriser. Mais lisez la parole de Dieu et vous verrez comment Dieu nous demande de nous comporter envers nos employés. Est-ce que vous priez pour votre patron? Il a un caractère difficile. Ben oui, lisez dans les épîtres. Et Dieu nous demande de savoir ce qu'il faut faire par rapport à ceux qui ont un caractère difficile. Comment je me comporte vis-à-vis de mon pasteur? Est-ce que j'honore mon pasteur? Vous allez me dire, mais c'est pour toi que tu parles. Non, c'est pour vous, pas pour moi. Est-ce que c'est écrit d'honorer son pasteur? Mais sûr qu'un pasteur, il ne va pas le dire. Mais moi, je le dis, parce que je ne le dis pas pour moi. Est-ce que vous priez pour moi? Est-ce que vous avez prié pour moi cette semaine? Oui. Eh oui. Oh, prier, il prie, lui. Pas grave, il n'y a pas besoin. Ah ouais. Comment je me comporte vis-à-vis d'un frère, d'une sœur? Mais est-ce que c'est écrit dans la Bible? Vous êtes vraiment mes disciples si vous vous aimez les uns les autres? Oui, je vais aimer. Oui, je vais même aimer mes ennemis. Est-ce que c'est écrit d'aimer ses ennemis? Alors, aimer ses ennemis, bien sûr, le matin, vous allez partir le café et vous sautez dans les bras. Je t'aime, t'es un ennemi, je t'aime, oui, je suis un hypocrite. C'est ça, aimer ses ennemis? Non, aimer ses ennemis, c'est dire, Seigneur, tu vois, cette personne, il y a une compatibilité. Lui, il est dans les ténèbres, moi, je t'appartiens. Depuis, il me fait la tête, il m'a insulté. Bénis-le, Seigneur, bénis-le. C'est ça, aimer ses ennemis. On ne va pas jouer les hypocrites. Est-ce que vous priez pour vos ennemis? Est-ce que c'est normal d'avoir des ennemis? Est-ce que c'est normal d'avoir des ennemis? Eh bien oui, puisque Jésus dit, aimez vos ennemis. C'est normal. C'est normal, pourquoi ? Parce qu'il y a, un combat entre les ténèbres et la lumière. Il y a des gens, ils se moquent de nous. Il y a des gens, ils sont pour père le diable. Nous, on a pour père notre Seigneur Jésus. Vous comprenez bien que ça ne crée pas l'amitié, ça crée la guerre. Eh bien, je vais les aimer, mes ennemis. Je vais prier pour eux. Oui, je professerai la vérité. Je la vivrai. Vous savez, il y a des choses, je crois qu'on ne les voit pas. Ce matin, en priant, je priais pour cette blessure. Et je pensais à un texte que j'ai partagé mes jeudi soir. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe dans les églises ? Si vous savez, je vous assure, je le répète, mais c'est normal que je le répète. Tout ce qu'on entend, tout ce que j'entends. Et je pensais à un texte sur lequel j'ai prêché jeudi soir. Il y a des choses qui nous dépassent. Vous savez, quand Abraham a renvoyé Agar et Ismaël, ils ont renvoyé. Il y avait une telle rivalité entre Sarah et Agar, qui n'a pas beaucoup changé depuis d'ailleurs, que Dieu a dû renvoyer Agar. Il est arrivé ce qui devait arriver. Écoutez bien, frère et soeur, c'est la conclusion, c'est pas rien. Il est arrivé ce qui devait arriver, c'est qu'ils se sont retrouvés dans le désert. L'outre qu'ils avaient pris ne contenait plus d'eau. Agar, ne supportant pas l'idée de voir son fils pleurer, l'a laissé à une centaine de mètres. Et il nous est dit, écoutez bien, que Dieu a entendu la voix de la mère ou de l'enfant ? De l'enfant. Ça vaut la peine d'enseigner nos enfants ou nos petits-enfants. Vous allez les avoir cet été ? Priez. Leurs parents ne sont pas chrétiens. Je vais avoir mes petits-enfants. Seigneur, donne-moi un verset, un texte, à partager avec eux pour qu'ils soient marqués. Ismaël, il a été marqué par les prières, certainement, de son père. Oui, de son père. L'Éternel entendit la voix de l'enfant et il est intervenu. La prière, mes frères et sœurs, je sais que beaucoup n'y croient plus parce que peut-être il y a longtemps qu'on n'est pas exaucé. Quand on n'est pas exaucé depuis longtemps, c'est sûr qu'il y en a un qui se facilite la tâche en nous encourageant à ne plus prier. Ça ne sert à rien. Si on avait compris ce qu'était la prière, je peux vous dire qu'on s'appliquerait à prier. Cet enfant, il va prier, il va mourir. Il prie. Et Dieu va intervenir. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous dire. Ça, c'est beau. Mais c'est la conclusion. Agar, elle est là, elle est malheureuse, elle pleure. Et qu'est-ce que Dieu fait ? Vous vous rappelez ce que Dieu fait ? Ouais. Dieu va lui ouvrir les yeux et elle va voir à côté un puits. Ce matin, quand je priais, je ne pensais pas que j'allais conclure avec ça parce que c'était la prédication de jeudi, mais je pense que plusieurs vous avez besoin d'entendre. Qu'à côté de nous, vous entendez, à côté de nous, partout où nous sommes, il y a une source. Mais mes frères et sœurs, il y a un puits. Et Dieu, on le lit, regardez, parce que je sais que les gens ne lisent pas. Alors, il y en a qui ne lisent pas, alors on va le lire. Genèse, mais pourquoi ça a été écrit ça ? Pourquoi ça a été écrit ? Pour nous, pour notre instruction. Mes frères et sœurs, il y a une source. La Sainte Seine, c'est une occasion de nous souvenir qu'il y a une source. Genèse 21, verset 15, verset 14. C'est des histoires, elles sont là. Comme de bien de fois, Dieu permet qu'on se retrouve dans le désert. Oui ou non ? Oui, oui. C'est normal en même temps. Genèse 21, verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre. Vous voyez, 50, 70, 80, 100 mètres. Que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Par contre, il y en a un qui a élevé la voix aussi. Mais vers qui ? Dieu entendit la voix de l'enfant. Alléluia. Vous croyez que Dieu peut entendre la voix de vos enfants? Mes frères et sœurs, si on était un vrai disciple, on ne douterait pas que quand on prie, « Seigneur, tu vois, moi je ne peux pas veiller sur mon fils tout le temps. » Vous pouvez veiller, vous, sur tous vos enfants, sur tous vos petits-enfants, jour et nuit. Mais toi, tu peux, Seigneur, parce que les anges gardent nos enfants. Vous entendez? D'ailleurs, si on est tous là ce matin, je vais vous dire, ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les païens d'à côté. Si on est là ce matin, c'est parce que les anges du Seigneur Jésus nous ont gardés. Vous le croyez? Bien sûr, mais on ne le voit pas, monsieur Gou, on ne le voit pas, vos trucs là. C'est écrit. C'est écrit que les anges campent auprès de ses enfants. Oui ou non? Et Dieu entend la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appelle Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Ça vaut la peine de prier pour nos petits, je vous le dis. Dans le lieu où il est, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, et je ferai de lui une grande nation. C'est pour ça, faites attention de ne pas prier contre les musulmans. Il faut faire attention à ça. Là aussi, il faut prier pour les musulmans. Après, c'est un autre débat. Hein. Verset 19. Je voudrais que vous compreniez que pour être un vrai disciple, il faut vivre ce verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Et moi, j'ajoute, après la point virgule, je me demande la tête qu'elle a fait. Mes frères et sœurs, nous avons un Seigneur tout puissant. Quand Jésus est mort sur la croix et qu'il a dit « j'ai soif », je ne pense pas, peut-être que là je m'avance un peu, je ne pense pas que c'était pour lui qui se plaignait, qui disait « j'ai soif ». Il a soif de nous avoir dans sa présence. Il a soif de nous, le Seigneur. Vous entendez? Il a soif de nous et il veut que nous comprenions qu'il y a un puits. On va prendre la Sainte Seine. Monsieur de Dieu, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre des frères? Restons les yeux fermés. Mes frères et sœurs, je voudrais que Dieu nous ouvre les yeux, que vous voyez maintenant, tout à l'heure, ce soir dans votre chambre, il y a un puits. Ce n'est pas le puits qu'il y a à Beersheba, c'est le puits qui a coulé au calvaire. Il a commencé à couler lorsqu'on a percé le cœur du Seigneur, le côté du Seigneur plutôt. Il nous est dit qu'il est sorti de l'eau et du sang. Ou plutôt du sang et de l'eau, parce qu'il avait donné tout son sang. Et mes frères et sœurs, ce fleuve, il coule, il est ouvert. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que je me rassasie, que je me désaltère et que je sois un disciple accompli. Je vous assure, c'est grave. Beaucoup de chrétiens ne sont pas des disciples. Ils sont entrés par une pseudo-repentance, une pseudo-conversion, ils sont rentrés par la fenêtre, mais jamais par la croix. La Sainte Seine, c'est un moment merveilleux, un moment merveilleux. Seigneur, ouvre mes yeux, s'il te plaît. Notre Père, ce que tu as fait pour Agar, tu le fais pour tous tes disciples, pour tous, sans exception de personne. Tu le fais pour tous les hommes qui te cherchent, qui ont reçu l'amour de la vérité. Et nous te remercions, Seigneur, de nous avoir relaté que tu avais écouté la prière de ce garçon. Donne-nous d'enseigner nos enfants afin qu'ils aiment la prière. Donne-nous d'enseigner les gens de notre famille afin qu'ils aiment s'approcher de toi. Merci, Seigneur. Et que ton nom soit béni. Recueillons-nous, éprouvons-nous. Répondez à cette prédication, répondez par un mot, répondez par du zèle, de la repentance. Répondez-lui. Il a besoin, le Seigneur. C'est pour ça qu'il pose des questions. Répondez-lui. Dans le silence, ce n'est pas la peine de parler à haute voix. Ce n'est pas la peine. Croyez-moi, ce n'est pas la peine. Priez dans votre cœur. Que son nom soit béni.